France Inter, le 18-20.
Le 1er mai, aujourd'hui, comme le 8 à venir d'ailleurs pour certaines entreprises, c'est le manque à gagner de ce mois de mai. Pour certains salariés, c'est le soulagement du mois de mai, la semaine coupée, comme on respire. Car pour certains, travailler est une souffrance et tous les chiffres vont dans ce sens. Or, aux 52% des salariés qui se disent anxieux au travail, aux 24% en situation d'hyperstress, aux 18% qui ont déjà été victimes d'un burn-out, on répond gestion du stress, coaching, hotline, séminaire. On veut mettre de l'humain dans tout le process, comme on dit, rien que les mots sont anxiogènes, sans quitter des yeux ce qui est considéré toujours comme l'essentiel, la performance, le tout avec au-dessus de chaque tête et à chaque fois une peur du chômage qui ferait tout accepter. Pour répondre au burn-out, pour l'éviter, nous dit-on, parce qu'il faut être heureux dans son entreprise, on nous parle de bonheur au travail, on nous parle même de chief happiness, au secours. Après, que nous ayons tous rempli un long questionnaire, comme nous l'avons tous fait dans nos entreprises, on voit bien ce qui pêche, on voit bien où sont les problèmes d'organisation et on nous installe un baby-foot, je caricature un peu, mais à peine quand même. Personne ne dit que l'entreprise ne doit plus gagner d'argent, évidemment, puisque c'est comme ça qu'elle l'embauche. Mais quand elle se transforme en milieu toxique, en quoi est-elle réellement performante? Alors à quel moment la performance individuelle a-t-elle été supplantée par le collectif? À quel moment la fragmentation des tâches, la mobilité permanente? À quel moment tout cela a désorienté les salariés au point de les épuiser, de les rendre terriblement anxieux? À quel moment avons-nous, au fond, perdu le sens? Il doit y avoir quelque chose qui ne fonctionne pas. Eh bien, posons-nous la question ce soir. Bienvenue.
Fabienne Saintès. Le téléphone sonne.
Marie, c'est vous la première. Bonsoir Marie, bienvenue.
Oui, bonsoir. J'appelais, je suis salariée d'une grande entreprise de services publics, mais de droit privé. Et je voulais dire simplement que on a des tonnes d'audits, de stages divers de bien-être, de gestion du stress, services qualité de vie au travail, salle de repos, baby-foot, ping-pong. Il y a des challenges organisés pour trouver des idées, des groupes de travail, pour améliorer la qualité de vie au travail, les services qualité de vie au travail, bien sûr. Et toutes ces initiatives font appel à des coachs, à des entreprises privées, qui ont un coût certainement énorme pour un résultat insignifiant. Je pense que ça décharge l'entreprise de sa responsabilité quant à la souffrance au travail hein, et des risques qui en émanent. Donc le problème pour moi, c'est le manque de personnel, de plus en plus de polyvalence. On demande une production de plus en plus grande. Et par contre, de plus en plus de managers, de chargés de mission, de coachs, etc. Mais de personnes qui produisent de moins en moins. Donc le problème pour moi c'est ça, c'est-à-dire que comment on peut faire travailler les gens plus longtemps à ce rythme-là. Et puis je suis désolée aussi de vous faire travailler un 1er mai.
Mais ça, voilà. Ouais, mais nous on est heureux quand même de le faire en fait. Et je ne perds jamais de vue moi qu'il y a des gens qui tueraient pour faire le métier que je fais.
Oui, je pense qu'on n'est pas tous à la même. Enfin, absolument. C'est très bien ce que vous faites. Mais je pense qu'il y a des gens qui souffrent au travail.
Quoi. Et c'est bien de le mesurer effectivement aussi quand on est bien dans son travail, ce qui effectivement permet de ne pas oublier ceux qui ne le sont pas. Et Marie, j'ai une question subsidiaire pour vous. Ces fameux stages, par exemple. De bien-être, etc. Est-ce que c'est obligatoire d'ailleurs ou pas?
C'est pas obligatoire, c'est proposé, conseillé parfois.
C'est ça. Le sens de ma question, c'était est-ce qu'on vous regarde de travers si vous n'y allez pas? Est-ce qu'il y a une espèce d'injonction à y aller ou pas? Comment vous le vivez?
Pas une injonction, non, mais on conseille. Voilà, je pense que ça décharge l'entreprise de. Je crois, d'un problème qui pourrait arriver. En cas de souffrance au travail.
Mmh. Merci beaucoup, Marie.
On met en place beaucoup de choses comme ça, quoi.
Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci pour cette entrée en matière, en fait, qui nous amène pile là où nous voulons aller, justement, jusqu'à 20h ensemble. Et pour répondre à vos questions et pour discuter ensemble, Sylvaine Perragin est là. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes psychopraticienne, vous êtes consultante en entreprise, vous avez écrit Le salaire de la peine, le business de la souffrance au travail. C'est publié chez Don Quichotte au Seuil. Et bonsoir, Julia de Funès.
Bonsoir, Fabienne.
Vous êtes philosophe spécialiste de ressources humaines, et vous avez écrit, co-écrit La comédie inhumaine, et c'est publié aux éditions de l'Observatoire. L'une après l'autre, Sylvaine Perragin, je vous voyais approuver en écoutant le témoignage de Marie. J'allais dire, témoignage assez classique, en fait, configuration assez classique, finalement. Regardez, on vous offre tout pour être heureux, de quoi vous plaignez-vous, en gros?
Oui, assez classique, et surtout, ça synthétise bien le problème, ça pose bien le problème, c'est-à-dire que il y a plusieurs choses, il y a beaucoup de choses dans ce qu'elle a dit qui sont intéressantes. Mmh. La première, c'est l'évolution de la sémantique. Mmh. Cette évolution est symptomatique de ce qui se passe dans les entreprises aujourd'hui.
C'est-à-dire
qu'elle parle de services de qualité de vie ou pas au travail. Vous avez parlé de Chief Happiness Officer, toute cette novlangue là de positive qui tourne autour du bonheur au travail. Il faut savoir que moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à la souffrance au travail, c'était il y a 20 ans, on parlait de pathologie mentale du travail, on parlait de souffrance au travail. Bon, après, toute la psychodynamique du travail s'est construite et il y a eu des analyses qui ont été extrêmement bien faites, mais un chat était nommé un chat. L'évolution, c'est qu'on est passé de la psychologie, des pathologies mentales du travail à la souffrance au travail, au stress au travail, aux risques psychosociaux, mais ça n'allait encore pas, c'était pas encore assez vendeur. Après, on est passé dans complètement autre chose, dans la phase de déni de réalité, on est passé dans la qualité de vie au travail, pour parler de la souffrance au travail. Ensuite, on est passé dans le bien-être au travail, maintenant on en est au bonheur, donc je pense qu'on va atteindre le nirvana dans 5 minutes. Non mais c'est vrai, mais tout ça pour dire que, si vous voulez, non seulement ça ne règle pas le problème de la souffrance au travail, parce que les gens n'ont pas besoin de baby-foot pour travailler, ils ont besoin de moyens pour faire correctement leur travail. Point final. C'est pas le bonheur au travail, c'est le travail au travail. Au travail, on a besoin de travailler. Pour travailler, on a besoin de moyens. Et comme cette déification de la performance s'est traduite par des statistiques et des mises en place de résultats et de chiffrages extrêmement violents, ben du coup, on s'occupe uniquement de la rentabilité, on ne s'occupe plus du travail.
Juliette de Funès, dans ce que dit notre amie Marie aussi, il y a l'idée, je pense que ça doit être le cas d'ailleurs dans la plupart des entreprises, on fait venir quelqu'un de l'extérieur, en fait, pour nous expliquer comment on doit être heureux dans cette entreprise qui est la nôtre.
Et c'est ça, c'est une imposture terrible. Je sors un livre en septembre sur ce sujet-là, où effectivement ce sont souvent des gens, des femmes d'ailleurs, les coachs, qui ont travaillé un certain nombre d'années en entreprise et qui en sortent, soit par incompétence, soit par difficulté, soit par dégoût, et qui viennent conseiller des gens en entreprise. Mais le coach n'est pas à une contradiction près. Je généralise pas, bien sûr, il y a des exceptions, mais comme il y a des poissons volants, mais elles sont quand même en général, ils sont quand même des exceptions. Et en revanche, ce qui est dit dans le témoignage de Marie, ce que je trouve très intéressant, c'est la culpabilité qui est ressentie par le salarié, c'est-à-dire que tout le raisonnement du salarié est le suivant, tout est fait pour moi, en gros, on a tout mis à ma disposition et je suis pas heureux. Mais en fait,
c'est de ma faute.
Et c'est ça l'imposture, c'est évidemment pas de leur faute. Pourquoi ? Parce que le bonheur est une hypocrisie sans nom, une imposture sans borne. Le bonheur est une affaire personnelle entre soi et soi-même. Quand des gens extérieurs viennent vous dire « fais ça, c'est pour ton bien », en général, il faut se méfier, c'est toujours pour le sien ou c'est toujours dans un intérêt. Donc ça, c'est la première imposture. Deuxièmement, le bonheur dépend de personnes qui vont bien au-delà de la sphère strictement professionnelle. Si mes enfants vont mal, je travaille nécessairement moins bien et j'ai beau avoir la piscine, le psy et tout ce que vous voulez dans l'entreprise. Et puis enfin, le bonheur est un état très instable. On est heureux 3 semaines, on est très malheureux 6 mois. Donc le bonheur est une... Et en plus, le bonheur est indéfinissable, c'est une fiction. On peut pas, ça fait 2500 ans que les philosophes essayent de le définir, ils n'y sont jamais parvenus, c'est pas impossible. Par incompétence, c'est parce que c'est indéfinissable.
Oui, mais les coachs vont le faire.
Voilà, c'est ça, alors de façon très mauvaise. Mais c'est une eau qui épouse 1000 formes, mais qu'aucune forme n'épuise, donc c'est très difficile. Et c'est pour ça que je dis que le CHO est clairement un emploi fictif.
Le CHO, donc le Chief Happiness Officer.
Vous imaginez que si on traduit en français, c'est l'officier en chef du bonheur, c'est ridicule. Mais c'est un emploi fictif au sens où il s'occupe d'une fiction. Il prétend s'occuper de quelque chose qui est indéfinissable.
Si vous êtes chef du bonheur, appelez-nous, parce qu'il commence à y en avoir dans les entreprises en France.
Bien
moi,
sûr,
je suis très curieuse.
Mais
bien sûr.
C'est pas un épiphénomène.
Moi, je suis très curieuse de voir effectivement à quoi ça ressemble exactement ce fameux travail. Je voudrais qu'on écoute Jackie. Bonsoir, Jackie.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Jackie, allez-y.
Je vous remercie de prendre mon appel. Voilà, j'appelais, c'était pour témoigner. Je suis secrétaire général d'un syndicat CFDT, qui représente les agents territoriaux du Morbihan, qui travaillent dans les mairies, dans les communautés de communes, au département. Et donc, depuis une dizaine d'années, on voit une émergence d'une vraie dégradation de fond de la santé au travail de nos collègues. Et donc, depuis à peu près 5 ans, on a mis en place une procédure, une méthode qui permet en fait aux victimes de ces mauvaises conditions de travail d'être reconnues comme subissant des pathologies issues de leurs mauvaises conditions de travail. Donc on a fait un gros travail de fond et on a donc maintenant plus d'une centaine d'agents publics qui ont été reconnus comme victimes de la dégradation de leurs conditions de travail.
Sur combien, pardon Jackie, pour avoir une idée en fait ?
Alors sur un nombre beaucoup plus important, voilà, on est à plus de 18 000 agents territoriaux sur le périmètre. Et donc chaque victime en fait a nécessité en fait de prendre son courage à deux mains, de comprendre qu'elle était elle-même victime pour oser de demander de l'aide. Donc en fait on agit vraiment sur la face émergée de l'iceberg actuellement.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Jackie. Il y a un chiffre dans votre livre, Sylvaine Perrajean, je vais le retrouver tout de suite. 400 000 personnes en France souffrent de troubles psychiques liés au travail. 500 sont parvenues à les faire reconnaître comme maladies professionnelles. Ça a de l'écho avec ce que dit Jackie là. Comment on peut dire aujourd'hui, parce que moi j'avais le sentiment avant de vous lire que le burn-out était aujourd'hui beaucoup plus entré dans les mœurs, si je puis dire, qu'on le reconnaissait, qu'il était entré dans l'entreprise, qu'on savait ce que c'était. En vous lisant, je me dis que non, en fait, finalement, on ne sait pas trop le reconnaître, on n'a pas envie.
Je crois que c'est un problème politique, pour le coup, si vous voulez, parce que reconnaître le burn-out comme une maladie professionnelle, il semblerait que ce soit un petit peu ouvrir la boîte de Pandore. Donc, le chiffre de 400 000 est probablement très sous-évalué, ouais. En réalité. Il y a deux choses. Il y a l'aspect victime, il y a l'aspect traitement individuel des problématiques une fois que les pathologies sont déclarées, et il y a l'aspect traitement collectif des causes. Ce que disait monsieur est très important sur le traitement la prise en charge des individus. C'est extrêmement important que l'individu soit pas tout seul dans cette prise en charge. Le faire reconnaître comme une maladie professionnelle, c'est une reconnaissance. Maintenant, il faut faire attention parce que psychologiquement, il faut pas que la personne s'enferme dans un statut de victime. Il faut qu'elle puisse reprendre sa vie en main. Donc c'est subtil, si vous voulez. À la fois, c'est très important de le reconnaître, et à la fois, il ne faut pas l'enfermer dans un statut de victime parce que c'est pas lui rendre service non plus.
Julia de Funès, est-ce qu'on va de moins en moins bien, réellement, statistiquement, dans l'entreprise? Pardon, on a ramené tout ça à des chiffres, hein, mais est-ce qu'on va réellement de moins en moins bien, ou est-ce qu'on est plus capable aujourd'hui, quand même, de le mettre sur la table et d'en parler?
Je suis principalement dans les grandes entreprises, les gens ont la possibilité d'en parler malgré tout, mais le paradoxe que ça soulève, c'est que jamais les entreprises n'ont fait autant pour le bien-être des salariés, et je considère pas qu'il y ait une malveillance ou un mauvais management, c'est une norme qui s'impose, donc ils font vraiment ce qu'ils peuvent, les entreprises, les managers, pour agrémenter le bien-être des salariés, et effectivement, il n'y a jamais eu autant de mal-être, il n'y a jamais eu autant de... Alors le burn-out, on le connaît, il y a eu le bore-out maintenant, c'est-à-dire l'ennui au travail, le brown-out, l'absence de sens, c'est-à-dire que maintenant, on met des mots sur des mots MAUX qu'on ignorait, dont on voulait pas prendre conscience. Et à chaque fois, ce qui me semble intéressant dans ces trois types de maladies, si je prends ces trois grandes-là, c'est que ce ne sont plus du tout des maladies au sens névrotique freudien, par l'individu qui s'oppose à la norme sociale, où on voit qu'il y a un conflit, et donc on n'est pas très, très heureux, on développe des névroses, des psychoses, etc. Là, ce sont à chaque fois des maladies qui révèlent l'incapacité de l'individu. C'est vraiment des maladies individuelles. Je suis incapable de trouver un sens, je suis incapable de trouver un intérêt à mon travail, et je suis incapable de répondre à la charge de travail pour le burn-out. Donc ça s'est complètement centralisé, individualisé, même la pathologie c'est individualisé.
Et en même temps, vous dites que c'est pas toujours effectivement la faute de l'entreprise qui parfois fait ce qu'elle peut, etc. Mais en même temps, quand c'est une organisation défaillante, et Dieu sait que ça arrive, qui conduit à des situations de burn-out ou de bore-out, si on perd le sens de ce qu'on fait, etc., c'est bien quelque chose qui est totalement... qui doit être corrigé par l'entreprise elle-même.
Bien sûr, c'est l'organisation, mais c'est aussi le courage du manager. C'est vrai. Parfois, il y a des qualités humaines qui font défaut au manager, mais c'est ce qui est très difficile, et c'est pour ça que j'accable pas les managers, c'est excessivement difficile de faire ça, c'est qu'aujourd'hui, le bien-être devient même une norme. Donc, il n'y a rien qui impose plus que la norme. La loi, elle interdit, la norme, elle impose. Et donc, si un manager ne fait pas ça, il est considéré comme ringard à out. Et s'il le fait, on dit ça suffit pas. Donc, c'est aussi une situation très compliquée pour eux.
Est-ce qu'il y a un Sylvaine Perrajean, puisque on disait d'ailleurs, c'est ce que disait notre première intervenante, que c'est de l'extérieur qu'on fait venir des intervenants. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, alors c'est compliqué de dire l'entreprise comme s'il y avait un corps comme ça qui était l'entreprise unique et qu'on travaillait tous de la même manière comme si on était numéro 6, comment s'appelait ce feuilleton de quand on était petit, peu importe, le prisonnier. Voilà. Donc c'est compliqué de dire l'entreprise en soi, mais est-ce qu'il y a quand même une prise de conscience qu'il y a des défauts d'organisation à corriger, et sont-ils parfois corrigés? Ou est-ce qu'il y a cette incapacité finalement désormais à voir que c'est l'organisation qui pêche?
Alors, je crois que les gens qui travaillent sur la psychodynamique du travail ou sur l'analyse extérieure du travail sont tous d'accord pour parler que c'est l'organisation du travail qui pêche. En interne, c'est plus compliqué parce que c'est pas seulement l'organisation, c'est le système. L'analyse, elle doit être systémique, si vous voulez. Les managers, le manager, il n'est pas devenu méchant dans les années 90, si vous voulez. Il est le manager, il est le résultat, il manage.
Il est le fruit de quelque chose.
Il est le fruit de quelque chose. Donc, il est le fruit d'un système où on réduit de plus en plus les moyens pour travailler et où on demande des résultats de plus en plus exigeants. Donc, ces deux paramètres ensemble génèrent du stress. C'est extrêmement simple. Moins de moyens. Plus de demandes de travail, plus de demandes de résultats, c'est stressant. Et vous aurez beau mettre des baby-foot et des piscines à vagues, ça ne changera absolument rien. Donc, si vous voulez, la responsabilité, elle n'est pas managériale, elle est systémique. Il faut qu'on insère dans la gestion des entreprises, puisque c'est ce terme qui est devenu toxique, il faut qu'on insère des paramètres qui ne soient plus uniquement la rentabilité. C'est très bien d'être rentable, mais je crois qu'aucun adulte aujourd'hui en entreprise ne remet en cause ça. Toutes les entreprises doivent être rentables. Mais il y a eu, je voudrais juste insister là-dessus, il y a eu un glissement. Aujourd'hui, on met l'objectif au niveau du résultat et plus au niveau du travail. C'est-à-dire que l'objectif n'est plus de faire un travail, que ce soit un travail de service, de production, de fabrication. Ce n'est plus ça, parce que je vais bien fabriquer quelque chose, je vais beaucoup en vendre. Maintenant, c'est comment je vais faire pour beaucoup en vendre. Du coup, on adapte les moyens.
Du coup, fabriquons plus ou du coup, fabriquons différemment.
Oui, c'est la même chose dans la communication.
Du coup, fraction dans les tâches, par exemple, etc.
Et donc, c'est la fin justifie les moyens et là, ça perd du sens.
Oui, juste un mot, c'est systémique effectivement, mais pas que, parce que effectivement, on voit quand même des organisations où ça va très bien, où ils ont simplifié les process, donc le mode d'organisation, et ça, mine de rien, il y a quand même des actions simples. Je dis pas que c'est facile à faire, mais simples à mettre en place. Quand on divise par deux le nombre de réunions par semaine, ça laisse de la place pour les gens pour réfléchir, respirer. Quand on arrête d'écrire des slides et des PowerPoints qui ne servent à rien, ça libère aussi les choses. Quand on commence à parler avec des mots vrais et plus de la nouvelle langue d'entreprise, ça libère aussi. Donc il y a des petites actions, je pourrais les détailler, mais évidemment on n'a pas le temps, mais il y a des micro-actions à faire pour rendre un peu plus d'autonomie et donner un peu plus de sens aux salariés pour décongestionner ces procédures qui sont excessivement engourdissantes pour les esprits.
J'allais poser la question, effectivement, il y a des clés quand même, non, Sylvaine Perragin, même au-delà de diviser le nombre de réunions, mais par exemple, vous dites qu'il faut arrêter les évaluations individuelles, par exemple, ça sert à rien,
franchement, tous les gens qui ont réfléchi là-dessus sont d'accord. À partir du moment où on a mis en place les évaluations individuelles de performance, on a séparé les gens, on les a isolés, si vous voulez, alors que le travail est éminemment collaboratif. Enfin, on ne travaille pas tout seul, on est toujours en interaction avec les autres, on est en interdépendance éminemment dans une entreprise. Donc c'est extrêmement important de ne pas demander et de poser des objectifs individuels, mais plutôt collectifs. C'est comme ça qu'on recréera du collectif aussi.
Eh bien, bonsoir Benjamin.
Oui, bonsoir.
Et on vous écoute, Benjamin, allez-y.
Alors, bonsoir, je suis moi gérant d'entreprise, j'ai 35 ans, ça fait 10 ans, donc je suis plutôt jeune, avec mon associé, on a tous les deux 35 ans, et donc très récemment, il y a un de nos salariés qui nous a demandé de faire 2 jours de télétravail par semaine, spontanément, c'était sa demande. Alors, on considère le bien-être au travail de nos salariés, franchement, je pense, et donc j'ai une question, c'est est-ce qu'il y a des études qui existent et qui prouvent que c'est bénéfique ou non pour l'entreprise? Donc, est-ce qu'on a intérêt à accepter ou pas ce genre de demande?
Eh ben, allons-y, merci pour la question très concrète. Elles sont en train de se renvoyer la balle, nos deux invités, l'une après l'autre. Julia de Funès, allez-y.
Oui, non, merci pour l'intervention de Benjamin, parce qu'effectivement, ça, c'est un moyen très, très simple de rendre les gens plus heureux. Et c'est pas dans la norme QVT et CHO. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est une preuve
QVT
qualité de vie au travail. Tous ces acronymes très jolis, veulent en général dire des belles choses. Et, effectivement, le télétravail est une marque de reconnaissance et de confiance énorme pour le salarié. Et effectivement, si je réponds à la question de Benjamin, il y a des études qui montrent que les gens travaillent plus et mieux de chez eux qu'au bureau. Et c'est pas simplement un gain de trajet, de transport, pas du tout. C'est qu'aussi, quand on est en peignoir chez soi, dans son canapé, et qu'on travaille, on est plus concentré sur son boulot que quand on est en représentation permanente dans les blocs de verre qui correspondent maintenant au technopôle des entreprises, où on est en permanence visible et il suffit de se savoir visible pour agir comme si nous étions vus, et c'est très fatigant d'être en représentation permanente, ça accapare une partie de l'esprit, et on est beaucoup plus concentré quand on est chez soi. Donc tout ça libère, décongestionne un peu les façons de travailler, et c'est très bien.
Sylvaine Perragin. Après je vais vous reprendre, Benjamin, j'ai un truc à vous demander. Allez-y.
Alors, il y a quelque chose de fondamental fondamental là-dedans, c'est la confiance.
Ouais.
Hein, c'est le manque de contrôle et le fait de faire confiance à des salariés en leur disant « je suis sûr que vous allez très bien travailler ». Et en effet, toutes les études montrent que les gens travaillent beaucoup mieux et plus.
Mmh. Benjamin, est-ce que vous craignez-vous que ça désorganise votre entreprise, en fait, si vous avez quelqu'un qui n'est pas là deux jours par semaine ou pas ?
Non, pas spécialement, sauf que c'est quand même une personne qui a certaines responsabilités dans l'entreprise. Donc, on attend aussi de lui une certaine dynamique au travail, donc il va motiver des équipes. Et donc, moi, ce que je crains juste, c'est qu'à un moment clé, par exemple, il ne soit pas là et qu'il faille, je ne sais pas, l'appeler, mettre en place un process particulier pour pouvoir répondre à ces demandes.
Ça veut dire que vous allez devoir bousculer un peu votre organisation, en fait, autour de lui, d'une façon ou d'une autre.
Forcément, et puis on va devoir aussi mettre en place quelques outils pour pouvoir faire en sorte qu'il puisse travailler à distance convenablement. Mais ça, on peut le faire, il n'y a pas de souci.
Vous êtes combien dans votre entreprise, Benjamin ?
On est 7 personnes.
Et est-ce que vous vous dites aussi, parce que je peux le comprendre, dans une entreprise où on est aussi peu nombreux, donc il y a quelque chose du domaine de la cohésion, effectivement, est-ce que vous craignez que, du coup, il y en a un autre qui dise « ah ben moi aussi, j'aimerais autant », etc.
Ouais. C'est des questions qu'on est soucié, oui. C'est tout à fait ça. Voilà. Merci, on n'est pas sûr de nous.
Merci Benjamin, merci vraiment pour cet exemple concret. Julia de Funès.
Oui, c'est intéressant dans l'exemple de Benjamin, et on l'a évoqué, vous l'avez répété ce mot, c'est le mot crainte. Et en fait, je trouve que tout part de là. C'est-à-dire qu'on a peur, on a la crainte de l'incertitude, le fait que le salarié ne vienne pas, etc. Et donc le réflexe, et c'est celui-ci qui me semble dangereux, c'est que quand on a peur, on veut sécuriser et donc on procédurise. Et c'est là que ça commence à engourdir un peu les esprits, à paralyser les choses. Donc je pense que une des façons aussi pour donner un petit peu de souplesse, de flexibilité dans les organisations dont on parlait tout à l'heure, c'est de ne pas réagir sans cesse à la crainte, à l'incertitude qui fait partie de la vie. Il n'y a pas de confiance sans incertitude. Mais
c'est de laisser aller et voir, en fait, quitte à se réorganiser.
Alors ça ne veut pas dire s'affranchir de tout et ne pas contrôler malgré tout, mais ne pas sans cesse procéduriser dès qu'il y a une crainte. C'est ce qui se passe dans les grandes organisations.
Serge, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes dans les Cévennes, vous avez de la chance.
Mais non, arrêtez de penser que je suis dans les Cévennes, je suis à Paris.
Ah ben, bah, je vois marqué Cévennes.
Je suis Gare du Nord, mais c'est la troisième fois qu'on fait le coup des
Mais Cévennes. Enfin, mais pourquoi les Cévennes?
J'aimerais beaucoup être dans les Cévennes. Non, je suis à la Gare du Nord.
Menteur, vous faites du télétravail dans les Cévennes, vous avez vu.
Voilà,
allez-y.
C'est ça, je fais du télétravail.
Allez-y.
En fait, moi, je trouve très, très intéressant tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Et je remercie d'ailleurs vos intervenantes qui sont, ma foi, très professionnelles. Moi, je voulais juste souligner un truc, c'est la question du jargon. En fait, le langage est très important parce que derrière les mots, il y a des idées, hein, comme chacun sait. Et je pense que aujourd'hui, l'entreprise, on le voit bien parce que, par exemple, les grands management, c'est-à-dire que les directions centrales, directions générales, etc., s'affranchissent de leurs responsabilités et de la causalité de ce qu'ils font en embauchant des consultants, donc des gens extérieurs, de telle manière qu'ils puissent répondre devant leurs actionnaires éventuellement des erreurs qui auraient été commises. Elles n'auraient jamais, en aucun cas, été commises par eux-mêmes. Et donc, du coup, découle de ça cette espèce de d'irresponsabilité généralisée, découle de ça toute une série de phénomènes, dont le jargon. Alors le jargon, c'est simplement dire des choses qui n'ont absolument aucun sens.
Par exemple, permet de se planquer, en fait.
Le floor manager. Alors, on vous explique ce que ça veut dire, mais en fait, le gars, il sert à rien. Il n'a pas de compétences particulières et simplement, il va être là pour vous questionner, pour vous questionner au sens vous faire vous-même vous poser des questions auxquelles vous n'avez évidemment jamais aucune réponse. Ça va vous figer dans une sorte de terreur, de peur, de peur d'être incompétent, de peur d'être d'être ignorant, de peur d'être stupide, etc. Et c'est comme ça qu'évidemment on vous tient par le licol. Je pense que là il y a vraiment, d'une manière générale, du fait de ce jargonnage, une ambition de la part des entreprises. Moi je vous trouve très très sympa par rapport au concept d'entreprise contemporaine. C'est des lieux d'esclavage, quoi. On veut dominer les gens, on veut les asservir, on veut les soumettre, et la meilleure manière de les soumettre, c'est d'inventer une langue à laquelle ils n'ont pas accès, à laquelle ils n'auront jamais accès, puisque vous la renouvelez sans arrêt. Dès qu'ils ont compris ce que ça veut dire, hop, vous en inventez une autre, vous inventez d'autres mots, etc., jusqu'à plus soif. Voilà.
Merci beaucoup, Serge. Vous disiez, c'est vrai, Sylvaine Perragin, c'est vrai que le vocabulaire, la novlande, les choses incompréhensibles, qu'on change...
Oui, absolument. Là, le dialogue se rompt, si vous voulez. À partir du moment où on n'a plus un langage commun, on ne nomme plus les choses de la même manière, on n'a plus de monde en commun. Donc,
on ne sait plus ce que ça veut dire.
On ne sait plus ce que ça veut dire. Et puis surtout, il y a... alors l'exemple qui est très connu, c'est le plan de sauvegarde de l'emploi.
Ouais.
Alors, il est très connu et il est très symptomatique et il parle vraiment de ça.
Ça s'appelle licenciement.
Oui, ça s'appelle licenciement. Mmh. Alors, il y a deux conséquences qui sont très graves. C'est la première, les gens qui sont licenciés sont niés dans leur souffrance. Et les gens qui restent, eux, ont peur, du coup, si vous voulez. Parce qu'il n'y a plus de place pour la souffrance. C'est ça, le message. Ça, le message, il est pour tout le monde.
Plan social, ça avait plus de sens plan de sauvegarde de l'emploi.
Mais bien sûr. C'est un déni de réalité. Et vous, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode où il y avait eu ce DRH dont on avait arraché la chemise.
Bien sûr, en France,
voilà. Tout le monde a dit c'est terrible, la violence, etc. Bien sûr, ça, la question n'est pas là. Mais il me semble qu'il y avait un rapport de toucher un corps et de revenir à quelque chose de réel, si vous voulez, en se disant tout ce discours est tellement inappropriable, il y a tellement rien dans ces mots, si vous voulez, on ne peut plus parler ensemble, qu'à un moment je comprends que les gens aient envie de toucher. Alors, il ne faut pas le faire, on est bien d'accord, hein, mais il me semble qu'il y avait cette dimension-là, là-dedans. Et dans ce que dit monsieur, il y a ça, il y a vraiment l'idée que la novlangue est ne nomme pas la réalité, nous isole, nous sépare et nous culpabilise, parce qu'on ne la comprend pas.
Et c'est intéressant parce que c'est le deuxième avec Marie tout à l'heure qui nous a appelé, qui parle de la décharge de responsabilité au fond, comme si l'entreprise se déchargeait d'une forme de responsabilité. Serge, qui est très sévère avec l'entreprise d'une manière générale, moi j'ai une question là-dessus, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un vocabulaire, une façon de faire, des gros groupes, des grosses entreprises qui n'existent pas dans les structures plus petites ou pas du tout, en fait, c'est pas du tout en ces termes-là que ça se joue.
Je pense que c'est quand même plus courant dans les grosses entreprises que dans les PME, si vous voulez. Quand on a 5, 6, 7 salariés, le rapport n'est pas le même. Vous pouvez pas jouer avec le langage. Quand vous adressez à plusieurs milliers de personnes, il est certain qu'il y a une espèce de systématisme à désincarner la langue et à en faire quelque chose de vide et de creux. C'est bien sûr, c'est difficile de généraliser parce qu'il y a des gens bien partout. Et je pense qu'encore une fois, ce ne sont pas les individus. Les individus, ils sont le fruit d'un système, franchement.
Il y a une volée de mails, mais vraiment une volée de mails. Les soignants sont à bout dans les hôpitaux, il y a une déconnexion totale entre les décideurs et le personnel. À l'hôpital, on réforme, on supprime des postes, on restructure, les personnels pourront travailler dans le bonheur lorsqu'ils auront des conditions de travail décentes, etc. Il y a des... Julia de Funès, je vous entends, je vous vois. Il y a des endroits particuliers, en fait, qui disent souffrance au travail aujourd'hui.
C'est pour ça que je voulais juste rebondir sur l'hôpital, parce qu'on dit effectivement le système, mais il ne faudrait pas penser non plus, enfin c'est vraiment une hypothèse, je ne prétends pas dire la vérité, mais que c'est le système capitaliste qui crée ça. Parce que regardez, dans les hôpitaux, les entreprises publiques, il y a exactement les mêmes problèmes.
Vous avez raison, c'est le système de fonctionnement.
Oui, exactement. Non mais c'était juste pour préciser qu'on n'entende pas par système le capitalisme, parce que ça touche toutes les sphères. Les entreprises mutualistes, où il n'y a pas d'actionnaires, elles ne sont pas cotées au CAC 40, connaissent exactement le même problème. Les hôpitaux connaissent le même problème, l'éducation connaît le même problème.
Et
je travaille même là actuellement avec les sapeurs-pompiers, donc quand même il n'y a pas plus sensé que le métier de sapeur-pompier, qui me disent on a un problème de sens, on est englué dans des procédures et avant d'ouvrir un appartement où il y a le feu, il faut qu'on coche quand même les cases, qui devient l'absurdie à l'état chimiquement pur.
Ghislaine, bonsoir.
Oui. Bonsoir.
Vous nous intéressez, Ghislaine. Vous travaillez à la CAF.
Oui, je travaille à la Caisse d'allocation familiale de Haute-Garonne à Toulouse. Et donc, nous avons une Chief Happiness Officer.
Ah.
Et donc, un agent du bonheur.
Amenez-la nous.
Ben,
du goudron et des plumes, la Chief Happiness Officer.
Elle est très gentille. Je n'ai rien contre elle. Nous n'avons rien contre elle. Parce que, bon, je suis responsable syndicale à la CGT. Et donc, ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, plein centre de Toulouse, on a un toit terrasse de 150 mètres carrés qui domine la ville, c'est magnifique, avec des badifous, des hamacs,
Des hamacs ? Attendez,
oui,
appelez-moi
des
Laurence Bloch.
C'est merveilleux. Et on a des conditions de travail très très difficiles. On a des conditions extrêmes avec l'annonce de Macron, avec la prime d'activité, etc. Et nous, en tant que responsables syndicaux, ce qu'on dit, c'est qu'on ne parle pas de qualité de vie au travail, on parle de qualité du travail. Mais effectivement. Alors, voilà. Et je suis complètement d'accord avec tous les intervenants.
Quoi. Et alors, du coup, Ghislaine, quand vous avez vu arriver, et effectivement, pauvrette, elle y est pour rien, c'est son travail.
Bien sûr. Et non.
Qu'est-ce qu'on vous a dit, en fait? Moi, je suis curieuse de savoir, au moment où on réunit les salariés, en disant bonjour, à partir de demain, viendra travailler avec nous, Machine, qui est Chief Happiness Officer.
Chief Happiness Officer, donc c'est l'agent du bonheur. Et ce qu'on nous a dit, vous allez remplir un questionnaire. Et donc, vous allez dire pour vous ce que c'est que le bonheur au travail. Voilà. Et donc, voilà, ce qu'est votre journée au travail, etc., avec tous les avantages et les inconvénients.
Et voilà. Du coup, mais elle fait quoi d'abord, c'est une jeune femme ou pas?
Non, je sais que c'est des nouveaux métiers, ça. Oui, okay. Oui, elle est très jeune, elle a 25 ans, okay. Donc elle est vraiment jeune.
Donc elle s'y connaît en bonheur, dit Julia de Funès, qui est très méchante.
Je persiste en disant que nous n'avons rien, absolument rien contre elle, et même on voudrait la protéger.
Mais bien sûr.
Parce que, voilà, on sait bien qu'elle n'a pas une baguette magique.
Mais du coup, qu'est-ce qu'elle fait de sa journée? Moi, je suis assez intriguée de ça, en fait.
Eh bien, elle organise, alors... le vendredi soir, par exemple, il y a des jeux de stratégie.
Ah, pardon.
Il y a des jeux de stratégie.
Je croyais qu'on buvait.
Ensuite, ce qui se passe, il y a aussi des petits déjeuners qui sont organisés avec la direction, etc. Enfin, bon, la vraie société libérale, comme vous disiez tout à l'heure, et qui se passe effectivement dans les hôpitaux, avec les sapeurs-pompiers, tout le monde, où effectivement, on est contraints tous à des processus, etc. Et voilà, mais on nous dit que sur notre temps de pause, on peut aller apprendre l'anglais, on peut on peut bénéficier, on peut se servir du baby-foot, on peut jouer au baby-foot, enfin voilà.
Merci beaucoup, Ghislaine. C'est toujours très instructif. Je vous voyais, Julia de Funès, désespérée. Surtout sur les jeux de stratégie.
Oui, parce que ça, c'est une mode aussi. Et le CHO, souvent, et vraiment, j'ai rien contre les personnes qui occupent ce poste, les pauvres. Mais c'est sur cette instauration de cette fonction-là. Encore une fois, c'est pas sur les personnes. Mais il y a une mode du ludique et de la gamification. Il faut jouer maintenant en formation. C'est de la ludification. Alors, bien sûr, il y avait les Lego et les Kapla pour voir si on avait l'esprit créatif ensemble. Donc, vous voyez des gens de 40 ans, 50 ans dans des salles de réunion qui font des Lego et des Kaplas pour voir s'ils peuvent créer une tour Eiffel en spaghettis ensemble. Donc ça, l'infantilisation, c'est plus possible.
Et c'est pas donné à tout le monde, je dois dire.
C'est plus possible. Avec des coquillettes. Maintenant, on est passé à l'escape game, c'est la forme un petit peu moderne du jeu. Et pourquoi c'est pas parce que j'ai envie, je suis vieille réac et que j'ai pas envie que les gens s'amusent. Simplement, faire passer ça sur de la formation, c'est encore une fois de l'hypocrisie. La formation, ça doit venir densifier les individus. Ils ont envie d'apprendre des mots, du vocabulaire, des raisonnements, de la littérature, de l'histoire, de la géographie, de l'anglais, ce que vous voulez. Mmh. Mais très souvent, le raisonnement un petit peu pervers du management à ce moment-là, c'est de dire, en gros, transposer votre expérience ludique dans votre réalité quotidienne managériale. Et c'est là qu'il y a une imposture, parce que quel est le contraire du jeu ? Freud, vous êtes psy plus que moi, mais Freud dit le contraire du jeu, c'est le réel. Mmh. Et quand on joue, on quitte la réalité. Absolument. Et on rentre dans une autre réalité. Mmh. Et donc, demander aux salariés de transposer leur expérience ludique dans la réalité managériale, c'est les mettre, encore une fois, dans une situation impossible.
Moi, je croyais naïvement que c'était un peu fini, en fait, qu'on en était revenu de ces trucs-là, que c'était très fin des années 80, début des années 90, c'est de pire en pire,
je vous écoute. Ça croit et embellit.
Bon, bah écoutez, nous à France Inter, on n'a pas de jeu de rôle et
tant vous travaillez, c'est pour ça.
Ouais, sûrement. Et finalement, c'est pas plus mal. Cyprien, bonsoir. Cyprien, est-ce que je vous ai perdu, Cyprien?
Non, je suis là.
Ah, bravo. Allez-y, Cyprien, on vous écoute.
Alors, j'avais une remarque, je reviens un peu sur ce que vous disiez tout à l'heure sur le rôle des managers. J'ai l'impression, de par mon expérience, qu'on a énormément de managers qui sont d'anciens techniciens, d'anciens opérationnels, des gens qui avaient les mains dans le cambouis, entre guillemets, et que la seule promotion, à un moment donné, qui est possible pour évoluer, c'est de passer manager. Or, un opérationnel ne fait pas nécessairement un bon manager, c'est des métiers très différents, et on n'accompagne pas ou quasiment pas les gens, en disant finalement tu vas gérer l'équipe dans laquelle tu travaillais, tu les connais, ça va bien se passer. Et je pense que ça doit générer énormément d'anxiété de la part des managers qui n'ont pas les outils pour gérer leurs équipes, qu'on catapulte là sans qu'ils aient pu développer de compétences, et que c'est à mon avis générateur aussi de mauvais comportements, et que c'est générateur à la fin de tous les problèmes de mal-être au travail dont vous parlez depuis tout à l'heure.
Et de comportements clichés au fond, j'imagine, bien quand sûr, on ne sait pas faire, on va chercher le truc le plus basique, une histoire de post-it.
On se conforme à ce qu'on a vu à la télé, on se conforme à l'image qu'on s'est construit du rôle du manager, et cette image peut être forcément extrêmement négative.
Sylvaine Perragin, pour répondre à ce que
je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit, c'est-à-dire que c'est un métier, c'est une fonction qui nécessite un savoir-faire d'être manager, et c'est extrêmement important d'accompagner les gens pour qu'ils apprennent à être manager, et c'est là où je vous rejoins dans les formations, c'est que quand on leur propose, d'abord, la plupart du temps, on ne leur propose pas de formation ou d'accompagnement, et quand on leur en propose, on ne leur propose pas d'outiller leur pensée et de se faire une idée de la manière dont ils veulent manager. On leur propose de faire des jeux avec des Lego, des post-it, avec des trucs qui ne leur apportera rien, absolument rien. Donc, si vous voulez, non seulement c'est pas efficace, mais c'est scandaleux. C'est scandaleux parce que c'est une vraie souffrance. Moi, j'ai accompagné des gens qui avaient des promotions formidables et qui étaient dans des états de stress absolu parce qu'ils se sentaient incompétents pour mener des équipes. Et donc, c'est extrêmement anxiogène comme situation.
Et c'est vrai que tout le monde n'a pas envie de devenir manager.
Et il y en a même de moins en moins.
Et voilà. Et parfois, c'est pas si simple à dire. Parce qu'on peut pas monter au-dessus sur cet échelon-là.
C'est difficile à dire.
C'est pas valorisé.
Mais le management n'est pas une promotion, c'est une compétence. Tout le monde ne l'a pas non plus.
Absolument.
Et le problème, c'est qu'on n'a pas trouvé d'autres moyens de reconnaissance en entreprise pour valoriser les individus, sinon cette promotion managériale. Mais ça vient aussi d'une idéologie un peu égalitariste très française, où tout le monde doit avoir accès au même poste. Et je pense que c'est une erreur terrible. Mais ça, on amalgame un peu dans cette idéologie-là les inégalités ou les différences avec des injustices. C'est faux d'amalgamer les deux. Il y a des différences qui sont justes, il y a des inégalités qui sont justes. Si je paye plus d'impôts que mon voisin, c'est inégal, mais c'est juste. Donc toute cette idéologie de égalitariste et de promotionnelle du management qu'il faut décortiquer un peu.
Olivier, bonsoir. Vous nous avez attendu très longtemps. Pardon, on vous écoute.
C'est pas grave, je suis l'éternel numéro 6.
Vous n'êtes pas un numéro, vous êtes un homme libre, Olivier, allez-y.
Tout à fait, Fabienne. Bah, écoutez, moi j'ai un petit peu... je suis complètement d'accord avec tous vos intervenants qui sont brillants et à peu près dans mon sens. Mais je pense que c'est un petit peu une externalité négative que justement toujours déléguer cette quête du bonheur à d'autres entrepreneurs, c'est-à-dire qu'on voit fleurir sur internet des épanouissements personnels, je vais vous apprendre, des coachs de life, des coachs de je sais pas quoi, et dans nos vies professionnelles nous voyons tous les jours que c'est extrêmement difficile de s'épanouir par notre propre volonté, parce que moi je travaille dans une entreprise qui est plutôt dans le productif, et on me demande toujours oui mais tu as fini à 11h le lundi matin, est-ce que j'ai fini? Alors je sais très bien que c'est pas possible, le chantier pour une quinzaine de jours, ça n'est pas possible. C'est qu'il y a toujours une injonction à la productivité et une injonction à faire du team, tout cette nouvelle langue, comme disaient vos intervenants, à être productif avec un langage corporate. Et c'est impossible, parce qu'on confond le bonheur, l'épanouissement et être heureux, qui sont trois choses différentes, et que c'est impossible dans le cadre d'une entreprise qui vous donne des injonctions qui sont irréalisables, de pouvoir accéder à une forme de bonheur. Et du coup, on voit fleurir, comme je le disais en préambule, cette forme de business as usual de gens qui vont « Ah, mais là, il y a quelque chose à faire là-dedans. » Et donc, ils se revendiquent comme coach de bonheur et d'épanouissement personnel. Merci. Mais c'est absolument scier la branche sur laquelle on est assis.
Merci beaucoup.
Parce que le bonheur en entreprise, c'est une somme de plusieurs facteurs. Il faut d'abord aimer son travail, mais pour aimer son travail, il faut d'abord aimer son équipe. Pour aimer son équipe, il faut avoir un chef respectueux. Donc, comment faire ?
Et merci beaucoup Olivier pour qu'on ait le temps de vous répondre, enfin alors de répondre pas vraiment, parce que effectivement Olivier résume un peu finalement ce qu'on disait tout à l'heure sur ce qu'on a dit tout au long de cette émission sur l'injonction, et c'est intéressant ce qu'il dit aussi. Du coup, comme on n'y arrive pas, on va chercher quelqu'un pour nous aider à être heureux, parce que du coup on va aller le chercher, le coach.
Et c'est la moins bonne personne. Si vous pouvez me réinviter en septembre sur un livre qui s'appelle Le développement impersonnel.
Oui,
Alors vous faites vraiment le sujet. Merci, j'adore venir chez vous.
Un dernier mot, Sylvaine Perragin.
Juste un mot, le travail, l'entreprise n'est pas le lieu du bonheur. C'est une arnaque, cette histoire. C'est pas le lieu. C'est a posteriori qu'on se dit, tiens, on a été heureux à ce moment-là parce qu'on a fait quelque chose. Mais venir dire qu'on va être heureux au travail, c'est une arnaque intellectuelle.
J'espère que les gens qui nous écoutent sont heureux de nous entendre. En tout cas, nous, on est heureux de travailler pour eux.
Et absolument.
Merci beaucoup.
Donc vous reviendrez, vous avez gagné,
merci,
bravo.
Merci Fabienne, super, chouette.